C'est une méthode volontairement artisanale dont la rentabilité augmente avec le temps et l'expérience de sa pratique. Je le souligne volontairement, tout simplement parce que un ami qui est ingénieur dans l'informatique en Suisse, qui est programmeur, m'a dit à un moment donné, sachant que je me lançais dans ce type d'activité, tu sais Maurice, il existe des grilles formidables qu'on peut poinçonner et qui permettent d'aller très vite dans ce domaine. Et il m'a envoyé donc toute une documentation que j'ai lue, dont j'ai pris connaissance, et je lui ai dit, écoute, c'est intéressant, mais c'est pas ce que je recherche. Ça permettrait d'aller vite, mais ça ne m'apporterait pas spirituellement chaque jour. Et la question que Dieu m'a posée pendant que j'élaborais mes fiches a été celle-ci. Maurice, si ton fichier venait à disparaître, quelle serait ta réaction? Est-ce que tu aurais quand même beaucoup appris? Ou bien est-ce que tu dirais carrément, dans le fond, j'ai fait du travail pour rien? Et ma joie a été de pouvoir dire, dans le fond, qu'il disparaisse aujourd'hui, mais j'apprends tellement chaque fois que je fais ce travail, sur le moment même. Et ça, c'est important. Que il nous permette, il nous aide, ce soit un moyen pratique pour nous aider dans cette relation personnelle que nous voulons développer avec Jésus-Christ et dans ce travail de recyclage permanent. Même si mon fichier venait à disparaître, l'essentiel, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Troisième chapitre, suggestions concernant le matériel nécessaire. Vous pourrez ensuite adapter, mais tenez compte, au départ quand même, ne fût-ce que de la chronologie des conseils donnés. Vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, j'utilise personnellement des fiches Bristol quadrillées de petit format. On ne les trouve pas dans ce format dans le commerce. On trouve des fiches, mais qui sont plus longues en général. Vous pouvez utiliser des fiches plus longues. Mais le problème est au niveau des boîtes. Quand on peut les fabriquer soi-même ou quand on trouve le format qui convient. Mais je pense à quelqu'un qui n'avait pas voulu suivre cette chronologie. Alors il a choisi ses fiches et puis ensuite il a cherché les boîtes. Et là il s'est rendu compte qu'il n'a pas réussi à trouver le format. Donc, quand on n'est pas bricoleur ou qu'on ne veut pas mettre des fortunes dans l'achat de certaines choses, ça peut poser d'énormes problèmes. Personnellement donc j'ai choisi un format, c'est le 10x7. On peut même l'allonger un petit peu, et d'autant plus que les boîtes en bois ou métallique, c'est le point 3, sont des boîtes à gâteaux, des bons petits gâteaux bretons. Ça permet de recevoir de temps en temps une bonne boîte de petites galettes bretonnes. Vous voyez, bon, on multiplie les avantages. Mais vous pouvez découper ceci dans des grandes feuilles. Il existe des grandes feuilles de papier... De Bristol, n'est-ce pas, où vous pouvez le faire tailler au massicot. Nous verrons qu'il y a d'autres dimensions, mais que nous n'utilisons pas pour la mise sur fiche de la Bible, proprement dite. Alors ça, nous le verrons un peu plus tard. Et puis des cavaliers à fenêtres, qu'on vend dans le commerce, il n'y a aucun problème pour se les procurer, et des petits cavaliers, c'est simplement pour les divisions et subdivisions alphabétiques. Nous verrons comment effectuer ce classement tout à l'heure. Pour élaborer une fiche, quel est le matériel nécessaire? Une Bible de travail, d'autres versions et transcriptions. Et je recommande là de ne pas s'entourer d'une multitude de livres. Choisissez plutôt une ou deux bonnes versions, différentes, très différentes, et un ou deux bons commentaires et vous vous arrêtez là. Ce n'est pas la même chose que quand on veut faire une étude personnelle sur un sujet précis pour donner, n'est-ce pas, quelque chose. Là, c'est du travail au jour le jour et vous verrez qu'il vaut mieux ne pas trop se disperser dans un nombre trop varié de livres. Texte hébreu ou grec, si possible, pour les initiés. Donc, je l'ai dit, un ou deux bons commentaires quand ils existent. Je choisis le livre biblique à mettre sur fiche. On va mettre un livre biblique complètement sur fiche, avec tous les avantages que cela représente. Commencez de préférence par un livre court et facile pour bien se roder, n'est-ce pas, à la méthode. Alors là, chacun choisit dans le Nouveau Testament, ou même un petit livre de l'Ancien Testament, mais choisissez un livre que vous possédez déjà bien, que vous avez déjà assez longuement étudié, creusé, sur lequel vous avez déjà donné une série, par exemple. Deuxièmement, je lis le premier chapitre plusieurs fois pour en avoir une bonne vue d'ensemble. Vous verrez qu'en même temps, il y a une dimension pédagogique qui remet en honneur, si cela était nécessaire, la loi des contextes. Il faut tenir compte du contexte pour élaborer la fiche. Et si vous ne tenez pas compte du contexte, vous serez obligé de la déchirer dans votre analyse des versets suivants. C'est d'ailleurs l'avantage sur d'autres méthodes. Dans les années 65 et suivantes, j'ai rencontré Ralph Challis, je lui ai posé un tas de questions, il m'a montré comment il procédait, lui, à des classeurs. Et j'avais commencé aussi avec des classeurs pour les illustrations, pour les thèmes. Et puis je me suis rendu compte que quand il fallait se balader avec des classeurs, ça posait des problèmes.
Oui, il le faisait.
Oui, ça déglingue une santé. En plus de ça, quand vous mettez tout sur de grandes feuilles, s'il y a une erreur, c'est la feuille entière qui est à faire sauter, etc. Alors que l'avantage d'une fiche, il y a un problème, on annule la fiche, on en fait une autre, comme vous le verrez. Je lis donc le premier chapitre plusieurs fois pour en avoir une bonne vue d'ensemble. Troisièmement, j'analyse le premier verset longuement, c'est-à-dire que je lis mon premier verset, très longuement, plusieurs fois. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que on va chercher un mot-clé. Mais suivant les versets, vous ne verrez pas forcément un mot-clé sauter à vos yeux tout de suite. Il y a des moments où vous direz, je ne vois rien là dans ce texte. Vous allez lire, relire, réfléchir, prier, et puis un mot-clé va sauter. On va voir quel type de mot-clé, de quel type de mot-clé il peut s'agir. Et le premier mot-clé va entraîner un second mot-clé, etc., face à la copie du verset. Alors, je cherche le premier mot à inscrire comme mot-clé sur une première fiche. Le mot-clé, vous l'avez ici. C'est le mot « métier ». Ou encore, sur cette seconde fiche, c'est le mot « serviteur ». Inscrit toujours en haut, à gauche, en rouge. Que peut-il être ce mot-clé ? Ce mot est effectivement contenu dans le verset étudié. Vous avez votre Bible de travail, et dans le verset, ce mot est directement contenu. Je crois que c'est le cas de la seconde ici, hein ? Serviteur. Remarquez que ce n'est pas le cas de la première. Le mot-clé n'est pas dedans. Mais c'est le cas de la seconde. Et on commence par là. On commence déjà par regarder les mots qui y sont pour déterminer si un ou plusieurs de ces mots ont un message dans le contexte. Ça, c'est important. Ce mot n'est pas dans le texte de la version utilisée, mais figure dans une autre version que je consulte en même temps. On verra un certain nombre de cas, parce qu'on fera un petit exercice ensemble tout à l'heure, sur Daniel 1.8, on a un démarrage de Daniel 1.8, mais on prendra le texte et chacun d'entre nous pourra proposer des mots-clés, etc., pour roder ensemble un petit peu la méthode. Ce mot n'est dans aucun des textes, mais je le choisis parce qu'il exprime clairement une idée, un message, une affirmation, etc., contenue dans le verset. C'est le cas ici. C'est le mot métier que j'ai mis parce que dans ma réflexion, j'ai vu que Daniel était en train de se préparer à son métier. Il faisait son temps de formation pour exercer un métier. Il avait déjà un patron même en face de lui. Donc, j'ai fait une fiche métier parce que il est bon de traiter la question de l'exercice de son métier et de la vie chrétienne dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ. Et j'ai ajouté, en le soulignant, vous remarquez, ceci est important car il ne s'agit pas de construire une concordance extrayant et classant tous les termes d'une même famille contenus dans la chronologie de telle ou telle version de la Bible. Ce serait un travail fastidieux et desséchant qui fait le bonheur des ordinateurs. Et nous en avons des preuves tangibles, ne fût-ce que par la récente concordance faite au Canada. Donc ce n'est pas ça, on ne veut pas faire une concordance. C'est une recherche beaucoup plus approfondie de termes qui ne sont pas directement dans le vocabulaire du verset. Et des termes qui y sont, bien entendu. Ce mot peut être un nom propre ou commun, un verbe, un adjectif, une conjonction de coordination, J'ai toute une série de dizaines de fiches sur les mais de la Bible. C'est très intéressant, j'ai d'ailleurs donné une série d'études sur les mais de la Bible. Parce que les mais, dans quantité de textes, sont des axes autour desquels tourne un certain nombre de pensées. Vous avez d'autres possibilités avec le si. Il y a des si qui jouent un très grand rôle. Et ainsi de suite. Vous avez une expression ou une courte locution qui peut aussi servir de titre. J'ai mis un autre pour les uns les autres. Après ces choses, ça c'est un des grands thèmes de la Genèse, vous avez à diverses reprises cette locution après ces choses. Il est très intéressant de remarquer ce qui se passe avant, pour qu'on puisse parler ainsi, et ce qui se passe précisément dans cet après. Et on peut en tirer toutes sortes de conclusions. Et c'est une méthode de ce type qui va nous permettre de mettre en évidence ces locutions sur lesquelles on passe et qui cachent souvent un message que Dieu voudrait nous donner. Important, il faut choisir ce mot-clé très soigneusement. Cela ne pose pas de problème lorsqu'il est indiqué en toutes lettres dans le texte. Mais c'est plus difficile lorsqu'il n'y est pas. Il faudra alors rester le plus logique possible. Et je ne dis pas de ma logique à moi quand je vous parle. Chacun dans le domaine du vocabulaire a sa logique, et sa logique est fonction de sa culture, de son éducation, de son arrière-plan, de son arrière-plan linguistique aussi. Et qui sait si dans le ministère c'est important. Et il ne s'agit pas de vouloir absolument être impeccable dans le domaine linguistique pour chercher des termes fantastiques. C'est un fichier personnel. Ce n'est pas un fichier que je vais mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est mon fichier à moi, je le comprends. Et c'est essentiel que je le comprenne, moi, qu'il me serve à moi personnellement. Oh, je vous donne un exemple. Dans Daniel 1:8, il est question à un moment donné de nourriture. Et dans un séminaire, j'ai dit, que mettriez-vous? Et quelqu'un a dit, manger. C'était normal, c'était quelqu'un qui avait un arrière-plan de langue qui n'était pas le nôtre. Et le premier mot qui venait à son esprit, c'était le mot manger. Bon, nous avons dit, peut-être serait-il préférable de mettre nourriture. Mais si ça l'arrange, tant mieux pour lui, n'est-ce pas? Je crois que là, il était d'accord de changer. Mais c'est pour vous montrer un exemple assez flagrant de situation. Gardez votre vocabulaire le plus usuel. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez retrouver votre fiche ultérieurement sans trop de peine. Et cela dépend précisément de votre logique de vocabulaire. Utilisez votre vocabulaire, vos mots-clés, à vous, quand ils ne sont pas dans le texte. Il faut aussi veiller à grouper les synonymes dans un seul mot-clé, s'il y a lieu. Par exemple, j'ai, je ne sais pas combien de fiches, œil, l'œil, dans les Écritures. Et j'ai mis à côté, vous voyez qu'il y a des indications, nous y reviendrons tout à l'heure, ou des petites lettres, ou des codes, à côté, j'ai mis regard et vue. C'est-à-dire, j'ai groupé dans les mots qui sont vraiment de la même famille, sous le même générique, en quelque sorte, si vous voulez. Voyez ? Évitez, enfin, l'emploi abusif de termes très généraux. Péché, Christ, Dieu, homme, parce que ce sont des termes très vastes. Mieux vaut, par exemple, pour Christ, faire des fiches divinité, humanité, incarnation, sagesse, et indiquer un peu plus loin, comme on le verra, qu'il s'agit d'une dimension appartenant à la personne de Christ. Plutôt que de mettre Christ et de mettre ensuite en subdivision son humanité ou je ne sais pas quoi. Parce que vous allez avoir des milliers de fiches Christ qui vont être beaucoup plus difficiles ensuite à classer. Vous verrez que quand on le fait, il y a une logique qui découle de la pratique et qui n'apparaît pas toujours quand on l'explique. Mais en le faisant, on y vient, on suit le fil du processus et on se rend compte qu'on est guidé vers le choix de solutions les plus logiques possibles. On peut y ajouter des fiches consacrées aux définitions, étymologie des mots bibliques. Je pense à certains mots qui ont X sens, le mot monde dans ses 4 ou 5 définitions, le mot chair dans ses 4 définitions, et tant d'autres mots qui ont diverses définitions dans les Écritures. On peut avoir une première fiche, on verra comment les placer, qui donne des définitions étymologiques bibliques. Alors comment fait-on ensuite? Page 2, j'inscris le mot retenu sur ma fiche. en haut, à gauche, le mot métier, ici, nous en verrons d'autres, en lettres, non pas magistrales, mais capitales, d'une couleur bien voyante. Il n'y aura pas de modèle en fin de notice, j'ai préféré donc le faire de cette manière pour pouvoir prendre certaines précautions d'usage. B, immédiatement à sa droite, donc tout de suite dans ce petit cadre, là à droite, j'ajoute une ou deux précisions de classification si nécessaire. Terme grec que j'ai mis là en français, upéretes, sens particulier pour des mots comme cher, alors c'est très intéressant, par exemple le mot serviteur, j'ai maintenant toute une série de fiches avec là près d'une dizaine, vous savez qu'il y a près d'une dizaine de termes dans le Nouveau Testament très différents et d'une complémentarité merveilleuse. On m'a demandé l'été dernier de traiter le thème du serviteur pour un cours de formation au ministère pour des jeunes qui se formaient de plusieurs nations et nous avions choisi ça. Le ministère chez l'apôtre Paul et toute la terminologie utilisée, c'est fantastique. Alors on peut le mettre là, en fonction du verset qu'on utilise, qu'on étudie, on met juste à côté le terme original. On peut avoir une numérotation éventuellement, il y a toutes sortes de possibilités là qu'on peut élaborer à soi-même. Église locale ou universelle, on peut le mettre à côté. Amour. On peut mettre à côté de Dieu, alors moi j'ai le theta pour parler de Dieu, de Christ, le qui. Enfin, chacun trouve sa petite formule, son petit dessin, et il peut indiquer déjà une petite précision de subdivision. Vous allez voir, on part du grand vers le petit, du mot-clé, on spécialise ici, on spécialise un peu plus à droite, on copie le texte et on met encore certains détails. Il y a là aussi une logique de procédure. Ces précisions doivent être les plus ramassées possibles. Une lettre alphabétique, un signe, des flèches, un symbole. Cela facilitera la photographie de la fiche consultée et permet de gagner de la place pour l'étape suivante. Si vous faites des fiches sur les mets, vous aurez les mets de Dieu, les mets du croyant, les mets de Satan, parce qu'il a les siens, les mets du non-croyant. Voyez, vous avez toutes sortes de possibilités, et cela va être très intéressant ultérieurement, quand vous voudrez faire une étude, de pouvoir classer vos fiches mais par catégorie, puis ensuite par subdivision, pour voir la manière dont l'enseignement biblique se construit sur ce thème, pour avoir quelque chose de cohérent. C'est toujours en haut, mais dans la partie droite cette fois-ci, c'est-à-dire sur la fiche ici, une courte phrase résume l'application du mot dans le cadre du verset et du texte analysé, directement dans ce cadre-là, hein, dans le contexte direct. Exemple, j'ai pris l'exemple d'1 Corinthiens 6, l'amour se réjouit littéralement avec la vérité, n'est-ce pas? Il est question de l'injustice comme opposée. Alors, vous mettez en haut à gauche amour, personnellement j'y mettrai comme subdivision Christ, parce que c'est de toute évidence le portrait de Christ, c'est la meilleure manière de le voir. Et puis dans la partie de droite ici, son association avec la vérité. Vous groupez un des aspects contenus dans le verset, parce qu'on va faire d'autres versets, d'autres fiches toujours sur ce même verset. Il s'agit en quelque sorte d'un sous-titrage le plus court possible. Point D, ces premières indications sont séparées du reste de la fiche par un trait horizontal. Vous l'avez ici, hein? Sous ce trait, et c'est là un des grands buts aussi de la méthode, je copie le verset précédé de ces références. Tel que cela a été fait ici, 1 Corinthiens 13, 6, il sera parfois nécessaire de copier deux versets pour la compréhension du texte, mais il faut que ce soit l'exception. Mieux vaut résumer en peu de mots le contexte immédiat entre parenthèses. Vous verrez les avantages tout à l'heure. Ensuite, je laisse, point E, un court espace sous le verset copié, c'est le verset, un court espace pour en détacher l'annotation personnelle que je vais mentionner. Une réflexion spirituelle, une précision d'ordre linguistique, une remarque de style, une autre traduction possible, la remarque d'un commentateur avec les références de l'ouvrage consulté. Cette annotation est souvent l'occasion d'un enrichissement personnel. Je peux parfois simplement indiquer comment Dieu m'a parlé, comment il m'a interpellé. Vous voyez, cet équilibre recherché travail intellectuel, mais application pratique immédiate. Vous l'avez ici dans le texte. Voyez, dans le cas numéro 2, vous avez la traduction littérale, le sens du mot hyperétès, d'un Corinthiens 4.1. Par contre, au-dessus, c'est une réflexion pratique qui peut me servir si je suis ancien dans une église ou si j'ai la charge d'un groupe de jeunes, pour partager ensuite un message. Et ça me remet moi-même en question. Ensuite, à 3 ou 4 carreaux du bas de fiche, donc ici, vous voyez, je trace un nouveau trait horizontal qui permet de réserver une bande plus le verso de la fiche pour toutes sortes d'observations ultérieures, références de passages, des passages parallèles, notes historiques, archéologiques, précisions reçues au cours d'un enseignement biblique, renvoi à une autre fiche. Je vous ferai simplement ici une remarque. Il faut se méfier des passages parallèles. Il existe pas mal de textes dans les Écritures qui sont pratiquement les mêmes. Je pense à Habacuc, le juste vivra par la foi, qui est 4 fois dans l'ensemble de la Bible, mais chaque fois, c'est un autre mot du texte qui est mis en évidence par le Saint-Esprit, de toute évidence, très clairement. Chaque fois, l'Épître aux Romains insiste sur un aspect. Clairement, là où Habacuc, dans le contexte de son époque, insiste sur une autre dimension. Donc il faut se méfier de ces parallèles faciles où on n'examine pas suffisamment le contexte et où, réellement, le Saint-Esprit a voulu mettre en évidence un mot dans l'ordre. Dans l'un, c'est « le juste par sa foi vivra ». Dans l'autre, c'est « la vie qui est au cœur ». Et ainsi de suite. Vous voyez, d'autant plus que dans le texte grec, la position des mots dans le grec est très importante. Et un mot qui est tout à fait en tête, par exemple, est d'une importance capitale. Il y a une chronologie du mot qui est très importante dans la phrase. Quatrièmement, je passe à la confection d'une seconde fiche, puis d'une troisième, jusqu'à ce que j'ai épuisé provisoirement les richesses du verset. Exemple, 1 Corinthiens 13.6, je fais une seconde fiche. Vous remarquez que le titre est toujours le même. Amour. Tout simplement parce qu'il y a une autre dimension dans l'amour, à savoir sa joie. L'amour se réjouit. Donc, je reprends le même mot-clé, et je parle ici de sa joie. Et je peux noter, entre parenthèses, sa joie ici avec la vérité. Parce que je vais peut-être, dans mon étude systématique des Écritures, avoir dans un certain temps 20 fiches où il sera question de la joie de l'amour. Mais de la joie dans une quantité d'autres avenues qui seront autant de sujets intéressants à étudier et à présenter. Troisième fiche, le mot joie. Sous-titre, celle de l'amour. Quatrième fiche, injustice. Ce titre, attriste l'amour, ennemi de l'amour, parce que c'est toujours dans le contenu de ce verset. Cinquième fiche, mais, parce qu'il y a un mais, et ce mais est un axe entre une position négative et une position positive. Sixième fiche, vérité. Voyez que rien que sur 1 Corinthiens 13.6, il y a déjà la possibilité de faire 6 fiches. Vous pouvez, si vous le désirez, faire aussi une fiche, je ne l'ai pas notée ici, récapitulative par verset, pour mémoire. C'est-à-dire que vous prenez une fiche un peu plus grande, celle-ci par exemple. Alors, vous mettez en haut, dans la case du haut, par exemple, Daniel 1, 8, vous aurez une fiche Daniel 1, 1, puis une fiche Daniel 1, 2, Daniel 1, 3, et vous mettez en dessous tous vos mots-clés qui représentent autant de fiches, voyez, et vous classez cette fiche, ce qui fait que si un jour vous voulez retrouver le décomposé de votre verset, bien vous allez simplement chercher dans un fichier qui sera à ce moment-là un fichier des versets récapitulatifs, mais des versets simplement, des références. Vous allez à Daniel 1.8 et vous savez exactement le décomposé de votre verset. Vous savez qu'on peut préparer un message complètement de cette manière. Mais ça m'aide énormément, ça m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de messages. D'ailleurs, nous allons voir les avantages et objectifs de cette méthode. Premièrement, et c'est le plus grand avantage, je copie le livre étudié plusieurs fois. Je suis presque au bout d'Hébreux maintenant. Bien, j'aurai copié l'Épître aux Hébreux un minimum de 5 ou 6 fois complètement sur une année. Quand on copie la parole de Dieu, on est imprégné. Là aussi, c'est une chose intéressante pour les épouses. Je le dis parce qu'il y a parmi nous des sœurs et que d'autres épouses vont écouter les cassettes. Le problème des épouses, surtout lorsqu'elles sont engagées dans le service de Dieu, aux côtés de leur mari, dans une vie de communauté, et qu'il y a les enfants qui naissent, le foyer donc qui augmente au fur et à mesure, souvent que l'Église augmente aussi, il y a tous les problèmes de fatigue qui font qu'au bout d'un certain temps, l'épouse connaît une saturation et a du mal aussi dans sa méditation personnelle à se ressourcer. Ça a été le cas de ma compagne. Et finalement, de son côté, elle a fait un peu la même démarche que moi en demandant au Seigneur de lui donner sa méthode pour elle, qui correspond aussi à sa vie de maman avec des petits-enfants au foyer. Et de manière très claire, le Seigneur lui a dit « copie la Bible ». Alors elle, depuis maintenant 4 ou 5 ans, copie chaque jour la Bible. Livre de l'Ancien Testament, livre du Nouveau Testament, elle a copié, je ne sais pas, peut-être une 15 à 20 livres de la Bible maintenant, complètement. Et ça a été, pendant un bon bout de temps, le seul moyen par lequel elle recevait le matin dans sa méditation personnelle, en écrivant. Parce qu'elle, elle était obligée de se concentrer un peu, elle avait un support de concentration, et quand elle écrivait, Dieu lui parlait. Et ça lui a fait tant de bien que maintenant, que ça va beaucoup mieux, vu le changement de type de ministère, où nous n'avons plus ces charges d'église, qui pour elle devenaient lourdes, eh bien maintenant elle continue, parce que ça continue aussi à lui faire beaucoup de bien. Et je dis que même s'il n'y avait que ça dans la méthode, ça vaut le coup. Je me suis fait un bien énorme dans le fait de devoir copier les Écritures. Simplement ça. Je pense à un camp de formation chrétienne que j'ai préparé sur la base d'une étude de Colossiens. En ayant fait 400 fiches sur l'épître aux Colossiens, sur les 4 chapitres, en ayant donc écrit cet épître 5 ou 6 fois, sur une durée de 3 mois à peu près, eh bien après ça, j'étais tellement imprégné de ce message de Colossiens que pour mon camp de formation, j'avais toute une matière tellement enrichissante, et puis j'étais dedans, il n'y avait pas besoin de pénétrer, n'est-ce pas, à nouveau, parce qu'on est beaucoup plus imprégné par ce fait. L'imprégnation et la mémorisation de son contenu sont nettement facilitées. Et c'est vrai que c'est important. Et la mémorisation n'est pas chose facile, mais quand vous décomposez un verset de cette manière, faites le test. Vous fermez votre Bible après et vous essayez de réciter le verset. Vous n'allez pas le mémoriser, disons d'une manière un peu bête, mais vous allez le reconstruire, votre verset, à partir de la manière dont vous avez décomposé par les mots-clés. Vous le verrez, on peut reconstruire son verset et le mémoriser de cette manière. C'est donc très intéressant, parce que vous faites deux choses là déjà en même temps, qui sont tellement nécessaires. Secondement, j'associe étroitement l'exercice spirituel à l'effort intellectuel tout au long de mon travail. Vous faites de l'exégèse, vous vous servez de bons commentaires quand ils existent, vous êtes obligé de creuser, vous êtes obligé de tenir compte des lois de contexte, etc. Vous faites un travail solide, vous vous ressourcez, vous avez vraiment toutes ces dimensions dans le même travail. Et non pas simplement aussi cette exégèse qui ressemble davantage à de la pathologie, à de la dissection du cadavre qui nous dessèche. Vous avez cette double dimension, et je crois que ça c'est très important dans notre ministère. Il faut que nous terminions notre rencontre le matin dans ce recyclage permanent, en pouvant bénir le Seigneur. Seigneur, tu m'as fait du bien à travers ce travail pendant que je creusais. Même si j'ai dû faire de la linguistique un petit peu et toutes sortes de choses de ce genre, il y a toujours une dimension très pratique. Troisièmement, j'analyse longuement chaque verset pour en tirer le maximum d'enseignements tous azimuts. Je suis obligé de toujours faire appel au contexte pour éviter de faire des fiches erronées. Quatrièmement, je découvre progressivement les thèmes dominants, les courants profonds du livre dans son ensemble. Je me régale en ce moment avec l'Épître aux Hébreux que j'ai lu des dizaines de fois. Mais le fait de l'écrire, de devoir réfléchir, fait que maintenant j'ai une série de thèmes tout neufs dans mon cœur, que j'ai d'ailleurs liés par tout un système de fléchage, et qui me font un bien énorme. Mais ce sont mes fiches qui m'ont aidé à découvrir ces fils conducteurs de l'Épître aux Hébreux, peut-être au lieu de les découvrir simplement de manière livresque. Ce qu'on découvre soi-même, ça reste là, c'est solide, et on ne le transmet pas du tout de la même manière que ce qu'on a reçu d'autrui. Alors les deux sont nécessaires. Je crois qu'il faut, là encore, c'est une question d'humilité que d'accepter ce que les autres ont reçu de Dieu. Mais de ne pas vivre uniquement de ce que les autres ont reçu, pour pouvoir aussi, à son tour, recevoir ces cadeaux de Dieu qui font tant de bien. J'entre dans la pensée de l'auteur. Je crois que c'est important d'entrer dans la pensée de l'auteur, dans la mentalité de Dieu. De plus en plus dans nos vies, une des grandes découvertes de ma vie spirituelle ces dernières années, c'est de me rendre compte combien notre mentalité, ma mentalité comme disciple de Christ, est loin de la mentalité de Dieu. Combien dans certains domaines on est persuadé, penser comme Dieu pense, alors qu'on transporte encore exactement le même schéma de mentalité qu'avant sa conversion. Dans le domaine de l'amour, par exemple, ça c'est un cas classique. Nos conceptions de l'amour, quand on pense aux conceptions de Dieu, ça pose d'énormes problèmes dans les relations horizontales dans la vie de l'Église locale. Parce que nous vivons en tant que disciples de Christ avec des conceptions de l'amour qui nous viennent du monde. Et c'est cette pénétration des Écritures perpétuelles qui petit à petit modifie notre manière de penser les choses et donc ensuite de vivre dans nos relations avec les autres. Cinquièmement, j'apprends à formuler mes pensées, mes observations de manière concise et condensée. C'est un excellent exercice pour ensuite faire des notes bibliques pour la Ligue, pour faire des messages pour la radio. J'ai fait des notes pour la Ligue et j'ai donné des messages à la radio et hein, on sait ce que c'est. Tant de lignes, tant d'intervalles, il ne faut pas dépasser plus de. C'est tuant comme exercice. Parce qu'il faut réduire un texte comme on réduit des photos, vous savez, pour que ça ait, et en même temps ne pas faire perdre toute la saveur du texte. C'est pas facile. Et on apprend à être concis. On apprend à utiliser le vocabulaire qui permet cette concision. C'est une formation qui prend du temps, mais voyez à nouveau un aspect pédagogique important. Et c'est là aussi l'intérêt de petites fiches. Ça vous oblige à vous concentrer parce que vous avez peu de surface d'utilisation. C'est volontairement pour être obligé de travailler sur une formule, sur un mot-clé, dans une seule direction. Voyez ? Et pouvoir ensuite compléter au fil des années, recto verso, avec tous les éléments qui vont s'y ajouter à travers notre écoute, nos lectures, mais qui entrent directement aussi dans la même pensée. Ça, c'est une pensée, dans une direction, dans mon verset. Il y aura tant d'autres directions qui peuvent donner lieu à la préparation ensuite de tout un message. Moi, j'ai découvert des messages comme ça en faisant mes fiches. La manière dont Dieu est un Dieu d'ordre, c'est-à-dire qu'il construit dans les Écritures les liens de cause à effet, etc. En faisant mes fiches, je me rendais compte qu'il y avait là des cascades et qu'ensuite j'avais une vision qui permettait de construire un message. Alors ça, c'est très important. Sixièmement, j'effectue un travail de base qui va considérablement faciliter la préparation de messages, d'études bibliques dans le cadre du ministère que Dieu m'a confié. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de ma préparation pour ce séminaire, j'ai cherché dans mon fichier tout ce que j'avais comme annotation de travail dans le domaine de l'ordre. Vous avez vu tous ces mots, etc. Ça, c'est simplement le résultat de mon étude mise sur fiche de certains livres de la Bible. Et au lieu de devoir aller rechercher dans tel livre, dans tel commentaire, dans tel livre de vocabulaire biblique, dans X direction, ce qui prend beaucoup de temps et qui nous oblige à nous replonger, etc., je suis allé au fichier et j'ai sorti toutes mes fiches temps, mes fiches ordre, et j'ai regardé mon travail. Et j'avais là tout un matériel déjà élaboré, préparation à une puissance de travail. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit à plusieurs reprises. Et quand je pars maintenant en voyage, eh bien, je passe un certain temps, quelques heures, simplement à sélectionner dans mon fichier un certain nombre de fiches que j'emmène avec moi. Au lieu de devoir les fouiller et prendre un temps fou avec toutes ces frustrations que nous connaissons, j'ai à côté de moi, à ma gauche, tout un rayon avec mes 5000 et quelques fiches et je vais simplement faire mes recherches là. C'est une aide extraordinaire, nous le verrons tout à l'heure avec les illustrations et tout le reste. Septièmement, j'ai constamment un canevas disponible pour avancer dans mon étude personnelle au lieu de tourner en rond en ne sachant pas par où commencer ou reprendre. Et ça, c'est un de nos problèmes dans notre formation permanente. C'est que nous nous disons X fois dans l'année, ah, il faut que je me lance dans telle étude personnelle. J'aimerais faire vraiment une étude personnelle d'un livre, d'un thème. Et puis, Un jour, nous prenons notre courage à deux mains ou à trois mains et nous nous disons, bon, je vais m'y mettre. Alors, on prend une feuille, on prend tel livre. Puis, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le texte? On a encore quelques vagues souvenirs de notre approche de l'écriture à l'institut, hein, ou à la fac, mais ça s'arrête là. Et on ne sait pas exactement comment aborder notre texte pour bâtir. Au bout d'un certain temps, on finit par trouver une filière, un chemin. Et du temps qu'on ait fait tout ça, l'heure est venue de passer à autre chose. 15 jours plus tard, on recommence. Et on, qu'est-ce qui se passe? On doit entrer à nouveau dans le travail préparatoire. On ne peut pas reprendre exactement là où on avait laissé. Il faut revenir en arrière, repénétrer, se remettre au travail, on n'avance pas. Et le résultat, c'est qu'on se décourage et qu'on finit par ne plus étudier à fond. Cette méthode, vous l'avez. Je sais exactement aujourd'hui où j'en suis dans mon texte de l'Épître aux Hébreux. Si demain, je suis à la maison ou après-demain, je sais exactement où je reprendrai et j'ai déjà mon approche. Je vais prendre chercher mon mot-clé, etc. Vous voyez, je n'ai plus ce long travail préparatoire qui va d'ailleurs changer chaque fois. J'ai un canevas d'approche personnelle systématique et je peux aussi avancer beaucoup plus vite. Et je crois que ça, c'est d'une importance capitale pour nous aider. Maintenant, extension de son utilisation. Et c'est là que ça devient passionnant. Plusieurs m'ont posé la question, mais est-ce qu'on peut utiliser dans d'autres domaines? Alors là, c'est intéressant. Je pense à certains enseignants qui maintenant utilisent ça dans leur travail d'enseignants, qui sont convertis à Christ, qui sont dans l'Église, et qui se sont dit, nous allons utiliser cette méthode aussi dans notre travail d'enseignement maintenant. Pour enrichir mon fichier, je vais ajouter aux fiches d'études systématiques de la Bible de nombreuses autres fiches extra-bibliques très utiles pour l'étude de sujets d'actualité. Quelles sont les possibilités? Fiches anecdotiques. Bon, je pense à ce qui m'est arrivé. Pendant 10 ans, j'ai collectionné toutes les anecdotes que je pouvais trouver dans mes lectures, dans les messages que j'entendais, etc. Et je les ai collées dans un gros classeur. C'était devenu un énorme machin. Alors j'avais des numéros pour essayer de m'en sortir. Mais quand je partais, j'étais toujours obligé de prendre mon gros classeur avec moi. Alors quand j'ai eu ça entre les mains, je suis allé prendre mon classeur et je l'ai déchiqueté avec une joie phénoménale, en prenant soin bien sûr de décoller toutes mes anecdotes pour les mettre sur fiche. Voyez, une simple dimension. Et j'ai maintenant pratiquement, oui, 15 ans de chasse aux anecdotes, aux illustrations, aux images, aux citations. Et c'est fantastique comme enrichissement pour les fenêtres nécessaires dans les murs de nos messages, si vous voulez. De manière à ce que nos messages soient aérés et que ceux qui nous écoutent aient un peu de soleil et de lumière et qu'ils aient de la joie pour recevoir et qu'ils soient stimulés à l'application. Fiches statistiques, citations, illustrations tirées de la nature, de l'histoire, des événements présents, mise sur fiche des passages frappants d'un livre ou d'une revue. J'ai mis sur fiche quantité de livres très intéressants qui m'ont passionné, des livres tout à fait profanes. J'ai quitté le Parti pour Dieu de Lucien Barnier, les mémoires de Grigorenko, le dernier L'évangélisation dans l'Église primitive est partiellement mis sur fiche. Tous les livres intéressants, quand je lis un livre maintenant, j'ai un crayon, puis je ne fais pas forcément mes fiches tout de suite suivant le lieu où je suis, mais j'ai un crayon et simplement je mets en page de garde PF avec un mot-clé, et on verra comment on choisit le mot-clé, telle page, et je souligne. Et quand je rentre à la maison, eh bien, dans ces moments de calme qui prépare un travail à fond, eh bien, je prends mon livre et je fais mes fiches. Voyez? Mais quantité de livres, aussi bien bibliques qu'extra-bibliques, peuvent être mis sur fiche de cette manière, en utilisant la même mentalité, le même système de réflexion que pour nos fiches bibliques. C'est-à-dire, vous lisez votre livre, vous arrivez à un passage intéressant, mot-clé, dans votre langage. Voyez, vous cherchez un mot-clé parce que, vous allez voir, on va placer ces fiches extra-bibliques directement avant les fiches bibliques sur le même thème. Donc, quand plus tard on aura besoin de fiche sur un thème donné, on aura dans la même ligne, dans la même suite, d'abord les fiches illustrations, statistiques, etc. sur le thème, et immédiatement après, toutes les fiches bibliques sur le même thème. Alors vous procédez exactement de la même manière, avec le même type éventuellement d'indications à côté, le même titre, le même sous-titre, vous procédez exactement de la même manière. Je vous donnerai d'autres détails tout à l'heure. Processus, recherche du titre et du sous-titre, rédaction du texte ou collage sur fiche des passages frappants d'un livre ou d'une revue. Alors, avortement, enfant, évangélisation, Jérémie, loisir, miracle, peur, poésie, vide, voyez, même principe, mais la différence de dimension est simplement une question de volume de texte, c'est tout. N'essayez pas d'y voir autre chose. On ne peut pas, on met le maximum, disons sur mes 5200 fiches à peu près maintenant, j'en ai sans doute 4500 dans ce format. Ensuite, disons 600 dans ce format. Et puis le reste dans ce troisième format, qui est le format le plus important. Là, j'ai même été piégé parce que je me suis rendu compte trop tard qu'il y avait deux formats. Alors maintenant, je fais attention, mais j'en ai très peu. Vous voyez, quelques bonnes dizaines. Même chose, simplement une question de volume. Antioche, ça c'est description de la cité d'Antioche, de Syrie, Michael Green, l'évangélisation dans l'Église primitive, page 130-132. Ce qui peut être très intéressant, au lieu d'aller chercher dans le livre, vous faites une étude biblique sur tel thème des actes, vous avez votre description là. Elle est liée. Vous y allez directement. Bible, enfant, évangélisation, évolutionnisme. Ici, vous avez le tableau qui est apparu dans Ictus, Israël, calendrier des fêtes juives, recto verso. Légalisme, liberté chrétienne, Ictus, tout récent. Nourriture, statistiques américaines et françaises. Le sang et son utilisation dans le béton, etc. C'est absolument fantastique comme article, tiré du Monde, je crois. C'est ça. Vous voyez, toutes sortes de choses extrêmement intéressantes. Que voulez-vous dire par ces réflexions? Je ne fais pas de publicité. Alors, format de fiche, 10 x 7 pour le plus grand nombre, 15 x 10 format commercial pour texte plus important, 20 x 12,5 pour les plus grands. Et là aussi, j'ai commencé récemment quelque chose, c'est à utiliser une autre couleur pour les fiches extra-bibliques, ce que je ne faisais pas au début. J'ai remarqué qu'après tout, c'est très pratique. Et maintenant, toutes mes fiches, qui ne sont pas des fiches d'études systématiques du texte biblique, je les mets dans une autre couleur. Et ça, vous pouvez vous chercher votre formule et décider que tout ce qui est illustration sera d'une couleur, tout ce qui est statistique sera d'une autre couleur. Ça, c'est vous qui verrez jusqu'où vous voulez aller dans ce domaine. Ce sont des pistes qui sont à votre entière disposition. Avantages. Alors, ces trois formats, déjà, avant de passer aux avantages, ces trois formats permettent déjà le classement d'un matériel important. Pour plus de volume de texte, il faut passer au classeur suspendu, etc. Et personnellement, ensuite, j'ai le système classeur suspendu, à peu près actuellement 300 classeurs suspendus, étiquetés, avec tous les autres extraits qui ne peuvent pas prendre leur place sur fiche. Et croyez-moi, quand vous avez utilisé ce système partant de la petite carte jusqu'au classeur suspendu, vous avez déjà évacué une quantité de matériel stocké sur pile. Je n'ai pas de pile de revues, à part une ou deux revues dans lesquelles il y a des photos absolument remarquables que nous voulons garder pour les enfants, des choses de ce genre. Mais même les ictus ne sont pas gardés. Tout passe au découpage et... Oui, oui. Mais simplement, je ne me fais aucune illusion. Pile d'ictus, on sait ce que c'est, dans 10 ans on en reparle, n'est-ce pas? Tout est découpé, photocopié. Maintenant, on peut photocopier les recto verso en plus, donc ça ne pose aucun problème. Et on a tellement plus de plaisir à aller directement à la source. Il me semble que c'est vraiment de grande importance. Avantage, éviter de longues recherches dans une pile de revues qui dorment les trois quarts du temps. Permettre d'aller rapidement à un ouvrage dans sa bibliothèque grâce à des références qui vous y amènent très vite. Disposer de tout un matériel facilitant l'actualisation, l'aération, la compréhension, la communication du message. Et ceci, ce que nous disons ici est à relever. Dispose notre oreille a une écoute différente des événements et notre œil a une lecture plus attentive pour discerner ce qui pourra entrer dans notre fichier pour enrichir notre étude. Et, voyez-vous, je me suis posé à maintes reprises cette question. Comment se fait-il que certains évangélistes, beaucoup plus que d'autres, soient actuels dans leur présentation de l'Évangile? Ce sont des chasseurs d'images. Ce sont des hommes d'écoute. Ce sont des hommes qui sont sur l'événement, comme des journalistes. Ce n'est pas seulement leur don spirituel. Mais c'est qu'ils ont acquis, et souvent beaucoup plus qu'on ne le pense par la discipline, un nouveau type de regard et un nouveau type d'écoute. Et ça, c'est aussi une partie de notre efficacité. Quand on a une structure d'accueil pour les statistiques et tout le reste, qu'est-ce que ça crée en nous? Une écoute différente. J'écoute une émission à la radio. Je sais que j'ai un canal pour négocier cette émission au mieux, pour l'utiliser au mieux, pour la pressurer au mieux, pour en tirer tout ce qui est possible en vue d'une utilisation ultérieure dans le cadre de mon ministère. Je lis un livre, même chose. Je suis une série de réunions avec un orateur parce que j'ai à nouveau ce canal, mon écoute est différente. De temps en temps, immédiatement, je dis, ah tiens, voilà, ça pourrait passer sur fiche. Et ce qui fait que de semaine en semaine, je dois dire de jour en jour, tout à fait naturellement, quantité de choses passent sur fiche, telle statistique à la radio, ça passe simplement sur fiche, et ça me permet d'être dans le vent. Et c'est d'une importance capitale dans nos rapports, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'enseignement. Si nous voulons accrocher, nous avons tout intérêt à faire passer un message qui corresponde aussi à la situation de notre temps. Voyez ? Alors, pour moi, ça aussi, c'est très important. Comment je vais classer les fiches ? Dans l'ordre alphabétique, tout d'abord, tout simplement. Vous le verrez ici, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, je vous l'ai dit, ces fiches, ça ne commence pas par Apocalypse, hein, mais ici, donc, ça va d'Apocalypse à athéisme dans l'ordre alphabétique comme dans un dictionnaire. Voyez ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, chaque mot est classé dans l'ordre biblique. Enlevez chronologie, je me suis trompé, c'est-à-dire livre, chapitre et verset. Exemple, toutes les fiches amour sont rangées en partant de, mettez un petit trait parce qu'il faut passer en dessous, en partant de la première mention dans la Genèse et en aboutissant à la dernière mention dans l'Apocalypse. Ce serait, si j'arrive au bout, ce sera la récolte totale de l'étude de la Bible tout entière avec cette méthode. Vous faites dans une semaine, ou disons sur une année, Épître aux Hébreux. Je vais avoir 12 fiches perfection dans l'Épître aux Hébreux. Ces 12 fiches vont être dans mon classement, l'une derrière l'autre, dans l'ordre du texte de l'Épître aux Hébreux. Simplement, quand je ferai la Genèse, si je trouve, je ne sais pas, 15 fois perfection comme mot-clé, eh bien je mettrai les 15 fiches perfection de la Genèse, bien sûr, tout simplement, avant les fiches hébreux, dans l'ordre biblique. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut être le plus logique possible dans notre classement. Alphabétique d'abord, et puis chaque mot dans sa quantité, dans l'ordre logique du texte biblique. Ce qui fait que je peux parfaitement aller dans mon fichier et dire, je vais maintenant sortir toutes les fiches amour de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ou toutes les fiches amour dans la Genèse seulement, ou dans tel livre seulement, pour faire une étude de ce thème particulier dans un seul livre. Voyez l'avantage. Les fiches anecdotiques, citations, statistiques, etc., précèdent les fiches d'études du texte biblique. Exemple, les fiches illustrant l'amour précèdent les fiches portant ce titre et consacrées au texte lui-même. Vous le remarquerez d'ailleurs ici. Bon, Apocalypse, je n'ai pas fait l'étude du livre jusqu'à présent, donc je n'ai pas ici, bien sûr, je n'ai que des fiches, je n'en ai que deux d'ailleurs là, qui soient des fiches statistiques ou utilisation du terme dans le Nouveau Testament, etc. Mais par contre, j'ai apostasie, J'ai un exemple précis d'une situation curieuse. Puis ensuite, Hébreux 3.12. Moi, bon, j'en ai qu'une pour le moment, dans les textes, les livres lus jusqu'à présent. Bon, apôtre, je n'ai que des fiches bibliques. 1 Corinthiens 1.1, 1 Corinthiens 3.6, ça vient de ce que j'ai fait 1 Corinthiens. Alors, j'ai toute une série de fiches apôtres à travers toute l'épître aux Corinthiens. Apparence, ça c'est un thème très important que j'étudie assez à fond depuis quelques années. Alors, apparence, j'ai tout ce qui est masque, problème de non-transparence, etc. dans la vie du disciple de Christ. Alors, j'ai tout d'abord toute une série d'exemples d'apparence. Après les fiches apparence, j'ai, alors je les cherche, voilà, après la, je ne sais pas, quinzaine peut-être ou vingtaine de fiches apparence, illustration, Genèse 27, 15, 16, un déguisement, Genèse 29, 23, 24, comment Dieu répond à nos déguisements, Genèse 37, un déguisement mensonger pour cacher le péché. Ensuite, je passe à Josué 9, 3, 5, les déguisements de Satan pour tromper Gabaon. Remarque, possibilité ultérieure de rangement différent. Voilà une possibilité ultérieure. Toutes les fiches appartenant à une grande rubrique sont classées par ordre alphabétique des divisions ou compartiments de cette rubrique, ceci dans une même boîte. Exemple, là, un exemple tout simple. Vous voulez faire une étude sur la famille. Vous aurez dans votre fichier des fiches couple, des fiches femme, des fiches mari, des fiches enfant, peut-être des fiches garçon, fille, mariage, célibat. Voyez, ce sont tous les mots-clés que vous allez rencontrer dans votre étude de texte. Vous dites, bon, maintenant je voudrais faire uniquement une étude sur la famille. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une boîte, vous sortez toutes vos fiches appartenant à la famille, donc toutes les fiches couple, femme, etc. Vous les rangez dans votre boîte, vous la fermez et vous mettez dessus famille. Et vous avez donc, sur les livres étudiés jusque-là, tout ce qui concerne les problèmes de la famille et que vous avez découvert dans la Bible jusque-là. Et vous pouvez faire ça dans une quantité de domaines. Ceci pour pouvoir faire du travail thématique. Vous pouvez aussi faire du travail thématique en tapant ici et là dans les Écritures. C'est possible. C'est-à-dire, vous dites, tiens, j'aimerais bien étudier un thème, et dans ma lecture cursive de la Bible pendant cette année, je vais faire des fiches chaque fois que je vais rencontrer des mots-clés qui correspondent à deux ou trois de mes grandes préoccupations. Moi, j'ai deux ou trois préoccupations pour mes thèmes en ce moment. C'est le mot apparence, c'est le mot alliance. Il y a deux ou trois thèmes qui sont sur mon cœur pour une étude. Alors, au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture cursive, chaque fois que je rencontre un texte qui évoque ce mot-clé très clairement, je fais une fiche aussi biblique, donc je sors de ma méthode habituelle, sur ce thème dans le texte, n'est-ce pas? Mais alors, pour éviter, si un jour je fais une étude systématique du livre, de faire la fiche deux fois, parce que ça c'est ce qui va arriver, sinon le jour, si je trouve aujourd'hui dans Exode une fiche apparence, un thème apparence, je fais ma fiche. Mais si je ne mets rien dans le texte comme point de repère, si l'année prochaine je fais une étude de l'Exode, une étude systématique des Écritures, hein, verset après verset, quand je vais arriver au même verset, je risque de faire une seconde fiche sur le même thème. Et j'aurai deux fiches sur le même thème dans la Bible. Alors ce que je fais simplement, au crayon de papier, je souligne le mot, quand il y est, et je mets à côté PF, petite fiche. Ça veut dire que j'ai déjà fait la petite fiche. S'il n'est pas dans le texte, que c'est un mot-clé sous-jacent, qui est dedans mais sans être dans le vocabulaire, je mets dans la marge. Petite fiche, mais en face du verset, et je mets mon mot-clé. Ceci pour éviter de doubler ou de tripler, voire parfois, certains mots-clés. Utilisation du fichier. Comment l'utiliser? On va terminer là-dessus. Premièrement, préparation d'un message, d'une série d'études bibliques. J'y trouve rapidement certaines définitions dont j'ai besoin, des illustrations, des indications de sources ou à l'épuiser. Les analyses comparées des sous-titres d'une série de fiches ayant le même titre permettent de bâtir un plan de travail et suggèrent des directions à suivre, etc. Deuxièmement, dans la rédaction d'un manuscrit en vue d'un message, la mention PF, petite fiche, ou FM, fiche moyenne, ou GF, grande fiche, amour plus tel sous-titre, me renverra à une fiche que j'utiliserai dans le courant de la présentation de l'étude. Les fiches peuvent m'accompagner dans mes déplacements, après avoir été sélectionné au préalable en vue du thème à présenter. C'est ce que j'ai fait pour notre séminaire, vous avez remarqué. Je prends simplement un certain nombre de fiches. Au lieu d'avoir tout copié dans le manuscrit, j'ai l'indication dans le texte qui me renvoie à ma fiche, qui est rangée dans l'ordre, et donc je peux au fur et à mesure donner mes illustrations dans le déroulement de l'enseignement. Troisièmement, l'église locale et les amis peuvent être associés à la chasse aux illustrations, coupures de journaux, idées qui doivent être mises sur fiche. C'est ce que nous avons fait dans notre vie d'église. Quand j'ai commencé, j'ai partagé ce que j'avais reçu avec l'église locale et je lui ai dit, écoutez, en tout cas, voilà au moins une manière dont vous pouvez m'aider dans le ministère. Tout ce que vous trouvez, vous êtes infirmière, vous, on jette un tas de revues, vous les gardez. Et vous essayez de m'aider ce que vous croyez pouvoir m'intéresser. Même si vous vous trompez, ça ne fait rien. Vous me l'envoyez. Et on m'envoie encore maintenant que j'ai quitté Paimpol, de temps en temps, des illustrations sous enveloppe d'amis qui continuent à penser. Et quand je vais en Bretagne, il y a régulièrement quelqu'un qui vient vers moi en me disant, tiens, j'ai gardé ça pour toi. Et l'Église sent qu'elle participe au ministère. Vous voyez ? Là encore, la communication est d'une importance capitale. Des personnes âgées aussi peuvent beaucoup aider dans ce domaine lorsqu'elles lisent ici et là. Elles ont un ministère à faire. Des travaux de mise sur fiche d'un passage biblique par plusieurs participants d'un groupe d'études bibliques peuvent donner lieu à une mise en commun enrichissante. Ça, c'est une chose que j'ai souvent proposée. On peut commencer au niveau d'un conseil d'anciens, le faire ensuite au niveau d'un groupe de jeunes, d'un groupe d'études de quartier. Comment faites-vous ? Il n'est même pas nécessaire de commencer par tout ça. Vous expliquez les principes, les lignes directrices et vous dites, écoutez, nous allons simplement, dans 15 jours ou dans 8 jours, nous pencher sur le premier, le deuxième ou le troisième verset, suivant où l'on est, n'est-ce pas, du texte que nous étudions en ce moment. Et vous allez essayer, à votre manière, dans votre langage, de faire toutes les fiches qui vous sont suggérées par le texte. Tout à fait individuellement, sans prendre conseil auprès de qui que ce soit. Et vous allez venir à la prochaine étude avec vos fiches. Vous en aurez peut-être une, vous n'en aurez peut-être pas du tout. Vous en aurez peut-être 10, peu importe. Vous venez avec votre matériel, avec ce que vous avez découvert. Et ce que nous allons faire, nous allons réunir nos trésors. Nous aurons éventuellement un tableau noir ou un rétroprojecteur. Et nous allons faire la liste des découvertes. Puis nous allons aussi voir ensemble des erreurs peut-être. Là où une fiche n'a pas tenu compte du contexte, pour apprendre à travailler dans le contexte. Et c'est ça, c'est là qu'au lieu de tomber dans cette passivité, ce christianisme assisté qui est le fort de notre époque et sa faiblesse, on engage les membres de l'Église dans un travail, dans une approche qui est de leur dimension, qui est de leur arrière-plan, qui est de leur langage, qui est de leur logique à eux. Ils travaillent avec nous. Voyez ? Et de temps en temps, c'est une bonne chose à faire, je trouve, dans le cadre de l'Église locale. Enfin, une note, je mets simplement en conclusion ici, avant toute chose, un ingrédient indispensable, la persévérance. Je crois que tout est là. Parce qu'une fois, c'est comme dans tout, une fois qu'on a passé certains caps, après, disons que ça va beaucoup mieux, parce qu'on se pénètre de la méthode, on prend un certain nombre de réflexes, d'approches, et on en tire, bien sûr, tout le bénéfice.